délice au pont des arts. Quand tu m'enlaces, mes poils se hérissent et la clé on s'en débarrasse. Paris, 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 Paris. Dessine-moi une esquisse de la tour Montparnasse. Paris, 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 Paris.
Radio G 101.5 FM.
On connaît maintenant le sexe d'un bébé avant sa naissance, mais le plus dur aujourd'hui, c'est de connaître celui qu'il aura après. Alors que de plus en plus les gens rejettent l'idée d'être étiquetés, on n'a jamais eu autant de cases et de tiroirs pour ranger ou se ranger. Ce soir, on ouvre les placards et on regarde les étiquettes en se demandant si elles sont bien utiles. Bienvenue dans une émission étiquetée LGBT. Que Tonix Live commence.
Libéré.
Bonsoir les garçons, bonsoir les filles, bonsoir ceux qui ne se reconnaissent ni en garçon ni en fille. Bref, bonsoir les gens et bienvenue dans Tonix Live. Nous sommes pour la première fois en streaming radio sur Facebook, alors rendez-vous sur la page Assotonix au Tonix Live pour participer en direct par écrit à l'émission. Alors ce soir, on regarde sous le vêtement, juste sur le col, et on décrypte nos étiquettes. Alors c'est mondial, hein, mais tout particulièrement français. Ici, on aime bien les gens dans les cases, ça nous rassure et finalement, c'est paradoxalement difficile à vivre. Dans le milieu professionnel, la diversification de l'activité ou même les changements de voie sont mal vus. Hein, on ne peut pas mettre les gens dans plusieurs cases. Un comédien de théâtre, par exemple, ne peut pas être acteur. Un acteur ne peut pas être chanteur. Hein. Pourtant, on a eu des exemples d'excellence dans plusieurs domaines en même temps. Et dans la sexualité, alors c'est pas mieux. Hein. Dans une grande majorité, on ne croit pas à l'existence des bisexuels. Hein. Ce sont des homos refoulés, forcément. Et puis un hétéro ne devient pas homo, il a toujours été homo, c'est sûr et certain. Et puis on est actif ou passif, hein, pas les deux, ou alors on fait semblant. Hein. Et parmi toutes ces étiquettes, la plus importante est sur le point de se décrocher, et ça, c'est pas gagné pour rentrer dans les mœurs. Oui, madame, on n'est pas forcément un garçon ou une fille. On peut passer de l'un à l'autre, ou même être les deux en même temps, ou voir aucun des deux, psychologiquement ou même physiquement. Mais le truc, c'est que ceux qui refusent les étiquettes en créent de nouvelles pour se définir. Queer, sapio, sexuel, pansexuel, les placards s'ouvrent et plein de gens en sortent en mélangeant les cartons sagement collés sur les tiroirs depuis des siècles. Alors chaque génération a sa révolution, il se peut que la nouvelle soit sexuelle. On en parle ce soir avec des chroniqueurs qui sont encore étiquetés. Lui, il est un garçon, si je vous assure, hein. Bon, moi quand même. Bon, après, c'est vrai qu'il a sans doute un côté féminin. Hein. Bon, alors un féminin très poilu, hein, quand même. Hein. Ce soir, il va nous parler de cinéma, qui tente aujourd'hui de ranger ses films par genre. Bonsoir, Olivier.
Bonsoir. Il y a des femmes qui sont poilues aussi. Hein.
Aussi, c'est vrai. Le second chroniqueur est aussi un garçon. Il se bat pour les droits et la sécurité sexuelle de tous, sans étiquette ou avec plusieurs étiquettes. Bonsoir, Florian.
Bonsoir.
Et puis, pour lui, les étiquettes ont un prix, une matière et des codes de lavage. Notre fashion victime est de retour. Bonsoir, Taran.
Salut.
Allez, avant de sortir les étiquettes, c'est la tradition ici, voici nos coups de cœur, coups de gueule.
Je n'ai rien contre les homosexuels, hein, on les aime, mais c'est contre nature. Hein.
Alors, qui a des coups de cœur, coups de gueule? On commence par Olivier.
Voilà, oui, alors il y a plusieurs coups de gueule, enfin depuis plusieurs semaines, on voit se succéder beaucoup d'actes homophobes, beaucoup d'agressions homophobes. Il y a un climat quand même qui commence à sentir mauvais, dans le monde entier, je pense. Moi, ce qui m'a interpellé ces dernières semaines, c'est malheureusement le suicide de Douna, qui était une jeune femme transgenre sur Montpellier, qui s'est suicidée. Voilà, il y a eu beaucoup de dommages, même diffamages maintenant, on dit, notamment à Angers. Je crois que le collectif Luciole a rendu famage donc à Douna. Elle s'est suicidée et a été accusée notamment le Crous de Montpellier, qui, après plusieurs tentatives de suicide, lui avait dit « si vous continuez à faire vos conneries, entre guillemets, vous serez viré de votre résidence. »
Ah, carrément le Crous.
Ah oui, carrément le Crous, ouais, oui. Oui.
Si même les autorités s'y mettent.
Ben oui, donc ça, et puis aussi les États-Unis, voilà, avec notamment, donc il y a eu le fameux décès de Ruth Ginsburg, donc la juge à la Cour suprême, qui était très progressiste, qui était vraiment une militante féministe, proche des LGBT, et donc qui a été remplacée par Amy Coney Barrett, donc elle a été nommée par Trump. Alors il faut savoir que c'est une conservatrice pure et dure, ultra-catholique. Son groupe évangélique prône même l'autorité de l'homme sur sa femme. Donc c'est même ce groupe qui a inspiré la série La Servante Écarlate.
Ah oui.
Donc autant vous dire c'est que les États-Unis virent un peu sur le conservatisme, sur l'ultra-catholicisme, le côté réac, quoi, qui fait peur. Voilà,
c'est bon, vraiment qui fait peur. De près quand même les élections prochaines qui arrivent. Oui.
Pour poursuivre quand même sur le coup de gueule par rapport à la Cour suprême américaine, enfin, c'est quand même sacrément improbable qu'un président, donc Trump, qui est là pendant 4 ans, arrive à remplacer 3 juges à la Cour suprême, quand même,
oui.
Et tous conservateurs, bien sûr, histoire de maintenir une majorité conservatrice à la Cour suprême pendant.
C'est 6 et 3 maintenant, 6 républicains, 3 démocrates.
Ouais, et puis ils sont là pendant encore 20-30 ans, quoi, parce que c'est la vie. Donc,
Ouais. Ok, bon, Florian, coup de cœur, coup de gueule.
Oui, bon, alors j'avais des coups de gueule, mais bon, je pense qu'on va, pas en rajouter, effectivement.
D'accord.
Non, c'était sur des paroles toujours homophobes et transphobes encore dernièrement, et puis la Pologne, la Hongrie, tout ça, enfin en Europe aussi, hein, on n'est pas bien lotis, à l'Est en tout cas. Mais bon, allons sur les coups de cœur. Je vais vous parler de Petra des Sutter.
Oui, c'est
la nouvelle vice-première ministre belge et ministre de la fonction publique, issu du parti Groen, donc flamand.
Groen, d'accord.
C'est le parti vert flamand.
D'accord.
Et Petra des Sutter est une femme transgenre. Voilà, donc c'est la première femme transgenre vice-première ministre.
Et vice-première ministre.
Vice-première ministre, oui. Ouais. Bah, il y a le premier ministre.
Et, ça,
il y a
une
vice, d'accord.
Et il a 2 vice-premières ministres, en fait.
D'accord.
Donc le nouveau gouvernement belge de Alexander De Croo. Voilà, donc c'est une première en Belgique, une première d'ailleurs. Enfin, il n'y en a pas beaucoup dans le monde où des femmes transgenres sont, sont dans des gouvernements.
Taran dit qu'il avait vu cette info. Hein.
Oui, je l'avais vu sur Instagram.
Ouais. Est-ce que tu as un coup de cœur, coup de gueule, Taran?
Moi, c'est un petit, entre guillemets, coup de cœur. Enfin, c'est pas hyper intéressant, c'est pas le.
Ne te dévalorise pas.
Le plus intéressant du siècle, hein, mais voilà. J'étais tombé sur ça, encore une fois, sur Instagram. Japan Airlines, ils ne disent plus mesdames et messieurs, ils utilisent autre chose, mais je sais plus c'est quoi, mais pour éviter de normer les gens, quoi, pour éviter de rendre des gens malaises qui par exemple ne se définissent ni homme ni femme.
Ouais. Et donc ils ont fait quelque chose sur Japan Airlines.
Ouais, du coup au lieu de dire mesdames et messieurs ceci cela, ils utilisent plus ça. Enfin,
bonjour les gens.
Je sais pas après comment ils font.
Les gens.
Salut bonjour tout le monde.
Salut tout le monde. Ok, de toute façon, on va en parler ce soir parce que c'est le thème. Alors, un autre coup de cœur.
Un autre coup de cœur, quand même, c'est le Conseil d'État en fait a validé la condamnation de C8 de payer l'amende qu'avait infligé le CSA pour l'émission Touche pas à mon poste avec
C'est pas tout jeune ça.
Le fameux canular de il y a 3 ans,
d'accord.
De 2017, le canular homophobe, donc le Conseil d'État a bien dit que c'était homophobe et donc a confirmé la condamnation à 3 millions d'euros de C8.
À 3 millions d'euros quand même. Ah oui, ça fait du mal.
Ah
oui, ouf, d'accord. Ok, allez, vous êtes sur Radio G, 101.5 FM à Angers, Jet FM 91.2 à Nantes ou partout dans le monde sur fréquenceZig.com. Vous pouvez aussi nous suivre en streaming sur Facebook et vous pouvez réagir à l'émission. Alors on a déjà des gens, il y a Audrey qui nous suit sur Facebook. Je pense qu'elle aura des choses à dire ce soir, Audrey. Ça va l'intéresser comme sujet. Et donc vous pouvez nous suivre sur Facebook, vous pouvez y aller en ce moment et nous écrire, on voit tous vos messages. Alors que vous soyez LGBTQI, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, bienvenue, c'est Onyx Live. Alors ce soir, on parle des étiquettes et des cases. Et pour s'y retrouver, on a inventé plein de mots, égard à ceux qui se trompent en vous apposant une étiquette. Voici quelques exemples avec nos amis de Topito.
Numéro 1, le genre. Le genre, c'est social. C'est tout ce qui est différent entre les femmes et les hommes, socialement. C'est ce point qui est primordial. Ce sont les sociétés qui construisent le genre. Par exemple, aujourd'hui, porter une robe est traditionnellement féminin, alors qu'il y a encore 100 ans, nos grands-pères avaient de superbes robes de communion. Et ça ne choquait personne. Comme disait notre chère Simone, on ne naît pas femme, on le devient. Numéro 2, transgenre. Les personnes transgenres ont une identité de genre qui ne correspond pas à ce qui leur a été assigné à la naissance. Être né dans un corps d'homme, mais ne pas se sentir homme dans son fort intérieur. Rien à voir avec l'homosexualité, qui parle de sexualité, comme son nom l'indique. Vous voyez les différences ? Attention, une personne transgenre n'a pas forcément envie de modifier son anatomie. Numéro 3, cisgenre. À l'inverse des transgenres, les cisgenres sont les personnes dont l'identité de genre correspond à son sexe de naissance. En gros, je suis né homme et je me sens homme dans mon corps. C'est la majorité de la population. Et encore une fois, on peut être cis et homo ou hétéro. Ça n'a rien à voir avec la sexualité. Numéro 4, transsexuel. Ce sont les personnes qui ont entrepris de changer physiquement de corps, que ça soit par le biais d'hormones ou d'opérations chirurgicales. Et pour répondre à la question mille fois posée, on dit un transsexuel pour quelqu'un qui s'identifie comme un homme et une transsexuelle pour celle dont l'identité est féminine. Et je vais me répéter encore une fois, mais ça n'a rien à voir avec la sexualité et le désir amoureux. Numéro 5, travesti. À ne pas confondre avec quelqu'un de transgenre. Le ou la travestie va porter des tenues opposées à son identité de genre, mais uniquement de manière occasionnelle. Pour plus de précision, je vous invite à regarder RuPaul's Drag Race, la meilleure télé-réalité du monde. Numéro 6, intersectionnalité. Pour faire simple, c'est quand tu cumules les galères question discrimination. Par exemple, tu es une femme, lesbienne, et en plus tu es noire, musulmane et handicapée. C'est le cumul de la mort. Numéro 7, hétéronormativité. C'est quand quelqu'un prend comme référence et norme l'hétérosexualité cisgenre et qui considère que c'est la seule sexualité au mode de vie légitime et normal en dénigrant les personnes différentes.
C'est contre nature. Hein.
Numéro 8, allié. Enfin, allié est un terme qu'on emploie pour quelqu'un qui soutient et se bat pour une cause sans faire partie de la communauté qu'il soutient. Et ça marche pour toutes les minorités d'ailleurs. Par exemple, tous les copains hétéros qui ont défilé il y a 5 ans pour soutenir le mariage pour tous sont nos alliés. Remerciez-les, ils sont rares et précieux.
Voilà, c'était quelques extraits, quelques termes de nos confrères de Topito. Alors, on retrouve tout de suite... je sais pas, j'ai un son bizarre, moi, sur mon casque, mais bon, on essaie des choses ce soir. En tout cas, vous pouvez nous suivre en live. Allez, on va reparler dans un instant de genre et de sexualité, mais avant, on va faire plus léger, voire aussi plus lourd, hein, ça dépend du tissu. Voici les étiquettes des vêtements fashion portés forcément par les LGBTQI+. Hein. Voici le décryptage de Taran.
Alors voilà.
Donc,
comme Bruno l'a introduit, donc je vais faire un petit quiz.
J'introduis, moi. Je t'écoute.
D'accord. Donc je vais faire un petit quiz sur les étiquettes. Et donc en gros, vous allez essayer de deviner le logo, enfin la marque, ça va être en fonction de la description du logo que je vais faire.
D'accord.
Et si vous ne trouvez pas, je vous donnerai d'autres indices parce que voilà, j'ai plein de trucs à dire.
Ok. Alors, on y va. Premier mot.
Alors, la première marque que vous deviez trouver, donc c'est une marque italienne et c'est symbolisé par deux G, un à l'endroit et un à l'envers.
Ah, G.
Ils sont imbriqués tous les deux.
Olivier,
c'est quoi la
marque? Moi j'aurais Dolce Gabbana.
Gucci.
Ah, Gucci?
Non.
Ah, Dolce Gabbana.
Ouais, bravo.
C'est Gucci?
Non, ouais, ici c'est bien Gucci, ouais.
Ah, c'est Gucci, parce que Olivier qui a réussi.
Dolce Gabbana, il y a un D.
Il y a un D, d'accord. Ouais, okay. Bon, Gucci, ok.
Ouais.
Ensuite.
Ensuite, la deuxième, c'est une croix dont les extrémités font comme des flèches. Les quatre extrémités. Je peux pas dire plus parce que.
Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la marque? Qu'est-ce que tu aurais à dire sur cette marque?
C'est une marque italienne. Elle est principalement axée pour les jeunes et c'est assez streetwear.
Olive, avec deux flèches.
Des iguales? Non, c'est pas ça.
Non.
Ils sont assez connus pour une ceinture qu'ils ont fait jaune longue.
Oh, c'est précis. Hein. C'est Olivier le spécialiste, mais là on va sécher, là, je crois. Hein. La première lettre, c'est quoi?
C'est en deux mots et c'est O. Et la deuxième, c'est W.
Oh là là, je fais la mode.
D'accord. Ok, Oberkampf, Oberwerf. Je sais pas. Alors vas-y, tu peux donner la réponse.
Off-white.
Off-white? D'accord, on va passer pour des vieux ringards. On va passer pour des vieux ringards. Je connais pas.
Non, mais c'est une marque un peu récente. Elle est connue depuis peu de temps, quoi. Je sais pas l'ancienneté de cette marque-là, mais tout ce que je sais, c'est que c'est venu il y a peu de temps, quoi.
D'accord. Allez, une autre
marque. Ensuite, la troisième, le signe, c'est un aigle.
Un aigle.
Et c'est écrit EA7. Sur certains t-shirts pour symboliser cette marque-là.
Armani, Emporio Armani.
Emporio Armani.
Ouais.
C'est ça. Ah oui, c'est un aigle avec les petits.
Ouais, fleurs. C'est ça. Ouais.
D'accord. Ok. Bon, bah c'est bon, tu vois, il a réussi à trouver.
Bien
c'est
joué.
Bon.
Bah,
ok.
Il y en a qui sont calés. Hein.
Ah ben bah, oui. Allez, une autre étiquette.
Il va être facile, l'autre va être hyper facile parce qu'on. Enfin, vous allez voir, c'est un D et un G.
Ah ben bah, je l'ai dit tout à l'heure.
Vas-y.
Dolce Gabbana.
Cabana.
Dolce.
Voilà, c'est
Dolce
ça. C'est pour ça, c'est facile celui-ci.
Ouais. Celui-là, c'est bon. Allez, on l'a. Un autre.
Allez, nice. Ensuite, VLTN.
VLTN.
Ou juste le V.
Ou juste le V. Alors, V. Ah non, là, ça va être chaud. Tu peux nous parler de cette marque ? Qu'est-ce que tu as à dire sur cette marque ?
C'est une marque italienne. C'est très classique. C'est des vêtements vraiment classiques. C'est une marque assez ancienne.
Il n'y a que les Italiens qui font la mode.
Oui, il n'y a que les Italiens pour
Valentino,
toi.
Valentino.
Bon, alors vas-y, dis-nous tout.
Oui, voilà.
C'est quoi
Valentino. Bien joué, c'est Valentino. Ouais.
Bah, Olivier, encore une fois, allez, trop fort.
Olivier, il est calé, il n'y a pas à dire.
Ouais, c'est clair. Alors, un autre.
Ensuite, donc c'est une marque italienne, encore une fois, parce que là, je suis dans les marques italiennes.
Ah, bah, je vois bien, là, on va faire toute l'émission sur l'Italie.
En fait, ils sont classés par. Enfin, bref, je suis hyper maniaque, donc je classe les trucs, faut pas chercher.
Ok,
parfait.
Donc, le signe, le logo, c'est la tête de Médusa dans la mythologie grecque.
Ah, bah, c'est ma marque préférée, ça.
Ah bon ?
Versace.
C'est ça ? Versace.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Bon, bah, va
ouais.
pour Versace alors.
Donc, okay. Là, ensuite, on est encore sur une marque italienne où c'est un F à l'endroit et un F à l'envers.
Alors, tu peux répéter ?
Vas-y, redis.
Un F à l'endroit et un F à l'envers, c'est quoi ?
Fist fucking ?
Voilà, mais il fallait bien qu'il y en ait un qui le dise. Hein. Super la marque.
Ferragamo,
ah, bah du coup, non, c'est pas ça. Ça, mais c'est bien parce que celle-ci, elle n'est pas hyper connue.
Ah bon, alors vas-y, alors c'est laquelle ? Vas-y.
Fendi.
Fendi.
Oh, c'est récent, ça, non ?
Bon, est-ce que tu as une marque qui n'est pas italienne ? Est-ce que tu as une marque française à nous faire découvrir, quand même ?
Ah bah non, bah, ça tombe bien parce qu'on passait sur les marques françaises.
Ah bah voilà.
Alors là, je commence avec un facile.
Oui.
Un L et un V.
Louis Vuitton. Allez, hop, c'est bon. Voilà. C'est fait. Suivant, next.
Bon, ça, c'est un gros
Allez,
classique. Hein.
Facile. Suivant.
Ensuite, donc maintenant, on est sur les marques françaises. Hein. C'est un coq mélangé avec un M.
Le coq français ? Le Adidas ?
Non.
C'est pas Adidas.
Le coq ?
Non, je pense que c'est le coq sportif que t'as en tête.
Ah, le coq sportif, c'est pas le coq sportif.
Avec un N dedans.
Les poulets de Louis.
C'est une grande marque.
En plume.
Je sais pas.
Suprême de poulet.
Bon, vas-y, alors, dis-nous tout, c'est quoi ?
C'est Montclair.
C'est quoi ?
Ah oui, Montclair.
Montclair. C'est... Bon, c'est
Montclair.
Ah, moi, c'est pour que le caoutchouc. Ce...
Principalement.
Je connais rien.
Je sais pas, bon.
Ensuite.
Ok.
Bon, là, c'est l'autre là qui va suivre est très très facile. C'est un C à l'endroit et un C à l'envers.
Coco
Chanel.
Qui sont tous les deux. Oui, voilà, c'est
Chanel.
Ça.
D'accord. Ok, Coco Chanel, ça roule.
Celui-ci était classico. Ensuite. Un B à l'endroit et un B. Il y a beaucoup, en fait, de, j'ai remarqué de en fait, les deux lettres qui sont à l'envers, genre.
Comme ça, ça se lit dans tous
là,
les sens.
C'est B à l'endroit et B à l'envers.
D'accord.
Non, mais il y en a plein qui font ça.
Un B.
Oui.
Burberry.
Non, c'est français, il dit.
Non.
Non.
Marque française, avec un B et B.
Marque française. Ils sont pas mal connus pour.
Bruno.
Principalement leurs chaussures.
Les vêtements moches, Bruno.
Louboutin. Non, c'est pas ça.
Bah, ce sera un L.
Non. Ça commence par un B, du coup. Et.
Forcément, il y en a deux, alors. J'espère, au moins.
Burton, tu ne pas ça
Burton. Non,
Burton, je crois que c'est anglais.
Oui. Et alors donc, c'est quoi ?
C'est Balenciaga.
Ah oui.
Ah,
c'est français.
Ah,
Bon, d'accord. Bah écoute, on prend. On prend.
Bon, là cette fois-ci, du coup, je vais vous faire une très très facile.
Oui.
C'est le crocodile.
Lacoste. Ah bah, Lacoste.
Voilà.
C'est quasiment la même chose.
Ça s'était donné. Hein.
Allez, la dernière. On y va.
Ok, alors, la dernière. Je vais en faire un plus compliqué, du coup, si c'est la dernière. Allez, parce que je vais pas vous laisser comme ça, là. Non, pas ça.
On va te laisser, on va te rappeler en une heure. Hein?
Non, mais au pire, je sais déjà ce que je vais prendre. En fait, du coup, il va être facile. Un Y, un S et un L.
Oh. Yves Saint-Laurent. C'est ça?
Voilà.
Ouais.
Oui,
et finalement,
oui.
Je suis pas si nul. Hein.
Non.
Ça va.
Ça va, franchement. Bien joué.
Très bien. Merci, Taran. Tu restes avec nous, hein, bien sûr.
Oui,
allez,
oui, bien sûr.
Vous pouvez réagir à l'émission hein, sur la page Facebook Assotonix où nous sommes en live. Vous pouvez nous dire si ça marche d'ailleurs. Hein, ça, on aurait bien, parce que c'est la première fois qu'on le fait en stream avec toute la technologie derrière. Donc des fois c'est un petit peu chaud, surtout pour la connexion. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça fonctionne. Allez, on parle des étiquettes ce soir. Je vous ai dit en début d'émission qu'en France on adorait ça. C'est dans notre culture, mais ça risque de changer. Ce qui se fait aux États-Unis hein, arrive souvent chez nous. Alors voyons un petit peu ce qu'en pensent les Américains. On a demandé à 17 000 adolescents américains comment ils se définissaient dans leur genre et dans leur sexualité. Alors ce qui en ressort, c'est que beaucoup refusent les étiquettes datant de l'époque de leurs parents, c'est-à-dire hétéro ou homo, ou même pour certains, homme ou femme. Alors lubidado pour provoquer leur aîné ou réelle tendance de fond, c'est ce que nous, vieux conréac, on pourrait se poser comme question. Mais Quasar, une association LGBT d'Angers, qui intervient dans les écoles, le dit elle-même, maintenant la majeure partie des questions des jeunes tournent autour du genre et des transgenres, donc on va pas y couper, hein. Alors, pour en revenir aux Américains, échappant aux étiquettes traditionnelles, ils ont créé une liste à la Prévert de termes, essayant tant bien que mal de définir ce que on imagine qu'eux-mêmes ne savent pas définir. Alors, on a les intersexuels, les agenrés, les demisexuels, etc. Alors, qu'est-ce que vous en pensez autour de cet appui tarant également de cette... Est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est vraiment un changement de civilisation où on va être complètement dégenré et désexualisé?
Non, pour moi c'est des choses qui existent depuis toujours, mais c'est voilà, on met en fait,
on met un nom dessus,
on met un nom dessus et puis voilà, c'est des choses qui heureusement hein, qui évoluent. Enfin, faut sortir du schéma voilà binaire quoi. Enfin, on a déjà toujours existé.
Ouais. Toujours autant de différences entre deux personnes quoi. Chacun est très très différent.
Il faut sortir justement du côté voilà homme-femme.
Et puis des pratiques qu'on a derrière. Florian.
Bah. Oui, après, je pense qu'effectivement, ça a toujours existé. Après, il y a le côté visibilité aussi, qui fait que les gens en parlent. Il y a aussi de la littérature qui commence à arriver depuis certaines années. Des études sur le genre, tout ça. Enfin, puis il y a de plus en plus de personnes qui font des études, d'ailleurs, sur le genre. Mmh. En sociologie, par exemple, il y a ça aussi. Donc forcément, ça crée au fur et à mesure un climat de comment dire, de où les gens...
Sont plus libres pour pouvoir en parler, quoi.
Libres de le dire, et puis la société, même si effectivement on a évoqué le fait que parfois elle est un peu réactionnaire et on revient parfois un peu en arrière, il y a quand même un.
Donc est-ce que c'est un mouvement de fond ou est-ce que c'est juste une mode au niveau des jeunes? Est-ce que vous voyez ça toutes les générations?
C'est une mode, je pense pas.
Est-ce que c'est toutes les générations qui en parlent ou c'est uniquement les générations qui sont jeunes?
Je pense que ça titille un peu toutes les générations. C'est-à-dire qu'effectivement, les jeunes aujourd'hui, ils en parlent de façon plus libre et ils s'y intéressent sans complexe, on va dire.
Ouais.
Après, les générations de nos parents ou arrière-grands-parents, je pense que c'est des choses qui les intéressent. À mon avis, ils auraient des questions, mais après, de là
à passer à
les exprimer, ouais, et à oser tout ça, c'est un peu plus difficile, mais je pense que ouais.
Taran, par exemple. Taran, tu as quel âge, toi?
Taran. J'ai bientôt 19, là, dans 3 mois.
Voilà, donc encore 18.
C'est important, les mois, à cet âge-là.
Ah oui, c'est important, effectivement. Donc 18 et bientôt 19. Donc, du coup...
Et lui, on va dire.
Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est vraiment ancré par rapport à tout ce que tu vois autour de toi?
De quoi? Je suis un peu déconnecté, là.
On parlait du genre, avec tous les mots qu'il y a, etc. On n'est pas homme-femme.
Ah,
on est défini. Toi, est-ce que tu...
Je dirais que les jeunes s'y intéressent de plus en plus. Je vois particulièrement dans mes amis, par exemple, qui vont pas mal s'instruire là-dessus, qui vont se renseigner, qui vont même m'apprendre des choses que moi je ne savais pas, puisque moi je suis curieux sur plein de choses, mais je vais pas être du genre à rechercher, donc je vais être du genre à apprendre et retenir ce que je vois. Mais du coup, j'en apprends beaucoup par elles, parce que c'est des filles qui m'en parlent.
Ouais. Est-ce qu'elles eux-mêmes se définissent autrement que par homme-femme ou leur sexualité comme hétérosexuelle ou homosexuelle?
Au niveau de leur sexe, elles se définissent en tant que femmes.
D'accord.
Je connais pas de jeunes de mon âge, moi personnellement, qui se sentent non-binaires ou qui n'ont pas de sexe défini. Tout ça, j'en connais pas dans les personnes que je connais.
D'accord. Et au niveau de la sexualité?
J'ai pas mal d'amis, qui ont des orientations sexuelles bien sûr différentes les unes des autres, donc une majorité d'hétéros, et puis gays, et puis aussi pansexuels.
Il y a des pansexuels, donc on verra tout à l'heure ce que c'est, effectivement, qui mangent un petit peu à tous les râteliers, mais on verra ça donc tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose qui est dans les conversations communes maintenant.
Ah oui, beaucoup plus qu'avant en tout cas.
On n'en parlait pas. J'étais ado, on n'en parlait pas du tout. Et je pense que ça touche les jeunes, parce que les jeunes, on se construit quoi, autour de 13, 18 ans et tout. On cherche quand même qui on est, on a envie de se créer une personnalité. Mmh. On se pose beaucoup de questions. Quoi.
Mais est-ce que mettre des mots, c'est important alors dessus ou...
Je pense que dans la construction de l'individu, je pense que le fait de s'identifier à quelque chose, de s'identifier à un concept, et effectivement, il y a de plus en plus de mots en fait qui sont associés à des concepts ou à des idées je pense que c'est important et après on peut s'identifier à plusieurs mots aussi en fait plusieurs mots différents.
L'idée aussi c'est pas de se sentir seul quoi, de dire qu'on est des gens qui nous ressemblent,
ça permet de s'attacher à un groupe
chose qu'on est je sais que moi quand j'étais jeune, je me suis souvent habillé je mettais des petites robes, des jupes, de ma sœur, de ma mère et tout. Mais voilà.
Tu savais pas.
Après, je me suis dit, pourquoi je fais ça et tout. Ça a pu me questionner et tout. C'était qu'un passage, quoi. Mais le fait de dire que ça peut exister, que ça existe, ça rassure en même temps, quoi. On n'est pas fou, quoi. Dire ça, heureusement.
Même si on peut. Effectivement, ça remet des cases, en fait. Enfin, ça remet des mots, ça remet des concepts, ça remet des cases, mais on est quand même sur sur de la pluralité et sur une explosion en fait de cases, où chacun peut se retrouver. Mmh. Et je pense que c'est moins gênant en fait que juste la case hétéro, homo, bi, même si effectivement tu l'as dit, c'est encore un peu. C'est pas totalement accepté, voilà. Ouais. Mais voilà, et le fait de rajouter des cases, en fait, ça montre aussi toute l'étendue de la complexité humaine aussi. Enfin, c'est-à-dire que
donc pour vous, c'est utile.
Il n'y aura jamais assez de mots de toute façon pour définir chacun.
Toutes ces cases sont utiles, en fait.
À certains moments, ça peut être utile, oui.
D'accord, très bien. Bon, écoutez, tout à l'heure, on va justement les nommer, ces cases, et puis voir les définitions de ces différents mots. On verra tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va quitter un peu la sexualité pour parler de culture. Le 7e art n'échappe pas non plus à la valse des étiquettes. Il faut maintenant des mélanges subtils et équilibrés pour qu'un film soit politiquement correct et présentable. On voit ça tout de suite avec la chronique d'Olivier.
Et puis quoi encore? Qui s'est caché ça et qui a par couvert?
Pourquoi t'allumes pas la mèche de ton tampon pour te faire exploser la tirelire? Parce que toi, c'est vraiment le seul moyen que t'auras jamais de te faire sauter.
Et voilà, bon jingle qui est parti.
Alors, on va aller du côté d'Hollywood et puis donc de la cérémonie des Oscars. Alors, depuis plusieurs années, il y a quand même eu de nombreuses polémiques. On se souvient de l'année 2016 avec le hashtag OscarSoWhite, où en fait, en 2016, aucun des comédiens, que ce soit principaux ou même les seconds rôles, comédiens, comédiennes, aucun comédien afro-américain, noir, n'avait eu de nomination aux Oscars. Donc, ça avait créé une polémique. Et puis, même deux ans après, en 2018, il y avait la meilleure actrice qui avait eu l'Oscar en 2018. Ça s'appelait Frances McDormand, qui est une super actrice très, très féministe. Elle réclamait sur la scène des Oscars plus d'inclusion dans les films américains. Eh bien, en fait, la cérémonie des Oscars a pris au mot Frances McDormand et elle a établi des règles pour qu'un film soit nominé à l'Oscar de meilleur film. Il va falloir qu'il remplisse certaines cases. Mm-hmm. Voilà, certaines étiquettes. Donc, un film, pour être sélectionné à l'Oscar de meilleur film, il devra respecter au moins deux des quatre règles suivantes. Donc, il faudra... au sein du casting, il faudra qu'il y ait de l'inclusion. Au sein de l'équipe technique, il faudra qu'il y ait de l'inclusion. Au sein de la production, il faudra qu'il y ait plus d'inclusion. Et au sein des équipes de promotion, de marketing et de publicité, il faudra qu'il y ait aussi plus d'inclusion. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme inclusion ? Alors, par exemple, plus d'inclusion au sein du casting, concrètement, il faudra que le film montre à l'écran au moins une personne du groupe suivant dans un rôle principal ou secondaire, mais un rôle secondaire important. Mmh. Donc il faudra que dans au moins un des rôles principaux, il y ait un Asiatique, un Latino, un Afro-Américain, un Indien d'Amérique ou un Indien d'Alaska, quelqu'un issu du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord, quelqu'un qui est né à Hawaï ou dans toute île du Pacifique, ou quelqu'un issu de toute autre ethnie sous-représentée au cinéma. Et d'ailleurs, le film aussi, au niveau du casting, il faudra qu'au moins 30% des acteurs devront être soit des femmes, des personnes issues de groupes ethniques, des personnes LGBTQI+, ou des personnes, ça c'est précis, des personnes handicapées mentalement ou physiquement ou ayant des difficultés à entendre.
Okay. Voilà.
Ça c'est juste au niveau du casting. Alors vous voyez, c'est quand même très très bon. Je sais pas si ça va autant dire que les films de Scorsese avec des gangsters purs blancs avec que des hommes et tout, autant là à mon avis ils seront jamais nominés aux Oscars, quoi.
Non mais c'est ridicule.
Est-ce que c'est pas ridicule?
C'est prendre le cinéma pour quelque chose de pédagogique, ouais, alors que c'est un art.
Je pense que ça va peut-être pour encourager justement les films à être plus inclusifs, aussi bien dans les scénarios que dans le casting, que dans les équipes de promotion, je sais pas.
Bah, on peut les
ça
encourager.
Ça me semble, je sais pas.
Artistiquement, c'est un petit peu compliqué de se forcer.
Je pense qu'il y a des films qui seront de qualité et puis pour lesquels il y aura aucun acteur LGBT, ouais, ou afro-américain, quoi, et qui seront de très 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 très, très bons films. Effectivement, c'est plus un moyen pour que les choses bougent, mais pour donner leur chance aussi à des personnes sous-représentées.
Mmh. C'est la discrimination positive.
Oui, c'est la discrimination positive, c'est très très américain, quoi. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais il y aura des cases à remplir. Un film devra être étiqueté inclusif.
D'accord. Bon.
Après, on en pense ce qu'on en veut. Ce qu'on veut.
Bah oui, enfin, c'est difficile avec l'art. Hein. C'est comme ceux qui font de la peinture ou de la photo. À ce moment-là, si on leur impose 36 000 choses, ça va être compliqué, quoi.
Moi, je pense qu'avant tout, il faut juger un film sur ce qu'il est, quoi.
Bah oui.
C'est...
Parce que 8 femmes, on pourrait plus le faire, 8 femmes, il n'y a pas d'hommes. Par exemple, non, mais c'est
8 femmes, s'il n'y a que des femmes.
C'est pas inclusif. Il n'y a pas d'hommes.
Non, parce qu'en fait, effectivement, le rôle principal, il faut que ce soit quelqu'un qui ne soit pas blanc, en fait. Donc, effectivement.
Bon, ouais, ok.
Compliqué,
bah écoute.
Compliqué, mais bon, on en pense ce qu'on en veut. La discrimination positive, ça a aussi des. Des bonnes choses aussi, ça a un beau côté aussi, quoi.
Est-ce que c'est le rôle des Oscars pour ça? Je ne sais pas.
Après, le rôle du cinéma aussi est de peut-être
alors, le rôle
de
du cinéma, oui.
De présenter des
mais
personnes.
Mais là, c'est les Oscars, là.
Oui. Oui, mais est-ce que si
les Oscars le font pas, est-ce que le cinéma le fera?
En fait, c'est très important d'être nominé aux Oscars.
Oui.
Donc, si ça permet à certaines personnes de plus représenter. Mm-hmm. Et de parler à des gens, parce qu'en fait on dit souvent que les Noirs ne sont pas représentés au cinéma. Il y a des gens qui ont envie de voir des Noirs, qui ont envie de voir des artistes noirs dans leur cinéma. Ben
pourquoi
ça leur parle, quoi.
Ils ne créent pas un prix pour le film le plus inclusif ou le film qui a fait le plus d'efforts, plutôt que de s'enlever un chef-d'œuvre qui, c'est pas parce qu'il est raciste, mais parce que la pensée de l'auteur était sur une histoire différente, sans arrière-pensée, quoi. Mm-hmm. C'est un peu compliqué quand même cette histoire. Hein. Bon, allez, ce soir on parle d'étiquettes et on peut dire que lui, il les collectionne. Président d'association, chroniqueur et comédien, il a aussi celle de celui qui ne donne jamais le sujet de ses chroniques à l'heure pour qu'on puisse en faire les lancements. Alors pour ce soir, on sait juste que ça va bien glisser sur les étiquettes. Voici donc la chronique de Florian.
C'est pas vrai, t'as eu le sujet de la chronique ce matin, ce midi.
Oui, c'était
il y a deux heures.
Ça change.
C'est ça, ouais.
Il y a un quart d'heure. Bon, alors. oui, effectivement, je vais vous parler de certaines étiquettes de produits, je vais dire, de tous les jours.
Alors, ça dépend, ce qu'une journée type chez toi va être un peu bizarre, quand même, à mon avis. Hein.
Non, mais.
Alors, tous les jours, tu utilises quoi?
Un produit, en tout cas, qui est quand même pas mal utilisé dans la sexualité, qui est le lubrifiant.
D'accord. Ah,
puisque le lubrifiant est composé quand même de certains ingrédients et qu'il faut parfois jeter un petit coup d'œil sur ce qu'il y a dedans parce que tout n'est pas forcément très bon pour la santé et puis pour...
Il y a des normes quand même.
Et pour les... Donc je vais vous donner certains noms de composants.
Ah d'accord.
Et puis je vais vous dire un peu à quoi ça sert et si c'est dangereux ou pas pour...
Donc là il y a Taran qui a sorti son pot de lubrifiant hein, qui regarde...
Mais comme les aliments, en fait, hein, les aliments, maintenant, on fait plus attention, Nutri-Score, machin. Il y a des applis aussi pour dire ce qu'il y a dedans et si c'est bon ou pas. Donc voilà.
Ok.
Alors, donc il y a plusieurs types de lubrifiants et forcément, il n'y a pas la même chose dedans. Alors, je vais vous donner un peu les noms des composants qui reviennent le plus souvent dans les lubrifiants. Donc, je vais commencer par les lubrifiants à base d'eau.
Donc il y a de l'eau dedans.
De l'eau. Il y a forcément de l'eau dedans. Si le premier ingrédient du lubrifiant à base d'eau, c'est pas aqua ou water, en général c'est pas forcément écrit en français. Hein. C'est écrit soit en latin, en fait, enfin le nom scientifique du composant, soit c'est écrit en anglais.
Il y a pas d'obligation que ce soit en français.
Sur les compositions, il n'y a pas forcément d'obligation que ce soit en français. Il n'y a d'ailleurs pas d'obligation à ce qu'il y ait les composants sur les bouteilles de lubrifiant.
D'accord. C'est pas comme la nourriture. Quoi.
Tout ce qui est ingérable, en fait, là, il y a une obligation, de mettre les composants. Mais là, le lubrifiant, en général, tu ne le manges pas, sauf les lubrifiants comestibles, il y en a. Ouais. Où là, je pense que c'est obligatoire, mais sinon, ce n'est pas obligatoire. Donc, mais il y a pas mal de marques qui mettent les composants quand même. Hein.
Bon, alors,
sauf sur les petites bouteilles de Durex de 30 ml, où là,
c'est
trop petit, il n'y a pas de place, donc ils ne mettent pas.
Okay.
Et c'est assez difficile de trouver la compo, d'ailleurs. Voilà, bref. Donc... Aqua, c'est le premier ingrédient. Aqua, bon, il n'y a pas forcément de danger pour la santé ou pour les muqueuses, hein, puisque c'est quand même des lubrifiants vaginaux, anaux, principalement. Ensuite, le deuxième ingrédient, en général, c'est la glycérine.
D'accord.
Donc là, pas de danger particulier. La glycérine, c'est ce qu'on retrouve dans le savon, par exemple.
D'accord.
Le savon, on utilise quand même...
C'est fait pour glisser.
Beaucoup. Alors, c'est fait pour... Alors, oui, ça a un agent effectivement glissant, mais adoucissant aussi.
D'accord.
Voilà, pour pas que ça agresse, effectivement. Après, il n'y a pas d'agent forcément glissant dans les lubrifiants en base d'eau. En fait, ça glisse parce que c'est l'association de tous les composants qui fait que ça glisse.
Ah, d'accord, ok. C'est pas comme de l'huile ou chose comme ça.
Non, alors
il ne faut pas d'huile.
Évitez d'utiliser l'huile, surtout si vous prenez des préservatifs. Hein.
Ouais.
Hein, pour le coup, prenez pas d'huile d'olive. Après, vous pouvez prendre de l'huile d'olive en lubrifiant, mais mettez pas de préservatif.
Ok.
Enfin, utilisez pas avec, sinon. Préservatif servira à rien. Sinon, en général, il y a un composant à base de cellulose. Donc, c'est marqué hydroxyéthylcellulose, par
exemple. C'est du papier, le cellulose ?
Alors, cellulose, voilà, c'est quelque chose de végétal. Et donc, c'est comme le papier, c'est la même. C'est la même base, en fait.
D'accord.
Et donc, c'est utilisé en tant qu'épaississant. Pour épaissir un petit peu le lubrifiant, histoire que ce soit pas hyper liquide.
Okay.
Et d'ailleurs, en ce moment, on a les gels hydroalcooliques, par exemple, et on voit bien qu'il y a des textures différentes des gels hydroalcooliques. Il y en a qui sont très liquides, il y en a qui sont un peu plus épais, il y en a qui sont bien.
Ouais. Ah, les très liquides, c'est horrible. Hein. Un petit coup, on la met partout, là.
C'est ça. Et donc, les composants dans le gel hydro, c'est un peu les mêmes aussi que le lubrifiant.
Oui, enfin, faut pas utiliser... Ne dis pas ça, on va pas.
Non, mais là, il y a des composants qui sont identiques, en fait. Après, le composant principal est forcément pas le même.
Oui.
Voilà. Ensuite, on a des épaississants. Bon, voilà, épaississants, principalement, c'est en général à base de cellulose. Mmh. Ensuite, on a des conservateurs, quand même beaucoup, pour garder son lubrifiant peu longtemps et empêcher que des bactéries se mettent dedans et altèrent le lubrifiant. Alors, pas sa capacité à glisser, mais en tout cas, ça va altérer son... comment dire, son sa qualité hygiénique.
Quoi. Ouais. Voilà. Donc on évite.
Donc les conservateurs, il y a principalement du phénoxyéthanol, par exemple.
Mais bah, c'est de l'alcool, ça.
Alors là, attention sur le phénoxyéthanol, c'est-à-dire que c'est pas considéré forcément comme dangereux, mais peut-être que c'est un perturbateur endocrinien.
Ah bah c'est voilà. Oui. D'accord.
Donc bah voilà, si faut se méfier quoi, quand même un petit peu.
Ben
et,
oui.
Et de toute façon, on sait pas forcément que ce soit les lubrifiants, que ce soit les cosmétiques. Il y a plein de trucs dedans et il y a certains composants, on sait pas encore tout à fait quel est l'impact à long terme sur.
Oui, parce que c'est quand même en contact avec les muqueuses.
Sur les muqueuses.
Ça peut passer dans le sang quoi.
Tout à fait. Ah bah ça passe effectivement dans le sang. Voilà. Donc en conservateur, vous avez aussi le sodium benzoate par exemple ou le potassium sorbate. C'est aussi des conservateurs.
C'est du sel, tout ça.
Là, c'est un peu moins dangereux que le phénoxyéthanol, mais voilà. Ensuite, vous avez des liants aussi qui fait que ça lie tous les composants et c'est souvent le propylène glycol.
Oui. Ah bah super.
Voilà. Et c'est la même chose que le liquide des cigarettes électroniques, le propylène glycol. C'est la même chose. Voilà. Comme quoi,
on va fumer le lubrifiant.
Non, bah, je ne vous conseille pas de mettre ça dans votre cigarette. Mais... voilà. Bon, après, il y a des régulateurs d'acidité, tout ça, acide citrique. N'ayez pas peur si vous voyez ça.
C'est du citron, l'acide citrique.
C'est pas grave. C'est juste pour que le pH soit ni trop acide, ni trop basique. Et que
ouais, ça brûle pas, ouais.
Et que ça respecte un minimum les muqueuses et que ça brûle pas.
Donc, il faut éviter quoi? Alors,
il faut éviter le phénoxyéthanol, voilà.
Ouais,
qui peut être un perturbateur endocrinien.
D'accord.
Il faut éviter tout ce qui est à base de parabènes. Donc ça, on le sait pour les shampoings, pour les savons, mais ça vaut aussi pour les lubrifiants, parce qu'il y a des lubrifiants avec du parabène, principalement les lubrifiants qui arrivent d'Amérique, qui sont directement importés des USA, parce que là-bas, ils ont une réglementation un peu plus souple.
D'accord.
Voilà, après, la réglementation européenne dit qu'il ne faut pas mettre du parabène à hauteur de temps, mais bon, ça reste un peu tangent. Donc c'est méthylparabène, propylparabène, par exemple. Enfin, okay. Dès que vous voyez parabène, de toute façon,
vous
évitez.
Okay.
Si vous n'avez pas le choix, bah bon, bah voilà. Mais sinon, vous évitez. Et puis tout ce qui est parfum, tout ce qui est additif, parfumé, ouais. Tout ça aussi. Donc citronellol, eugénol, coumarin, linalol, par exemple. Tout ça, ça peut créer des allergies, en fait. Donc c'est pareil. Si vous savez.
Moins il y a de choses, mieux c'est, en fait.
Bah moins il y a de choses, effectivement, mieux c'est. Voilà. C'est comme la bouffe. Hein. Ouais. Moins il y a d'additifs, tout ça et tout.
Mais alors du coup, ça existe les bio?
Alors du coup, les bio, ça existe.
Ouais.
Oui.
On peut faire un peu plus confiance.
Des choses qui sont à base de végétal, en fait, parce que là, il y a des choses qui sont à base de...
C'est du pétrole, hein, c'est sûr.
Chimie.
Ouais, c'est sous la pétrochimie, ouais.
Voilà. Les lubrifiants au silicone aussi.
Oui.
Vous voyez diméthicone, diméthiconol, par exemple. Ça, c'est le silicone. Alors, c'est pas forcément dangereux. Il faut éviter aussi parce que ça peut perturber aussi.
Oui, enfin, sauf que ça peut être utile pour certaines pratiques où ça se dilue moins à l'eau, en fait.
Ouais, c'est ça.
Parce que si vous faites ça sous la douche avec un lubrifiant à l'eau, ça va pas servir à grand chose. Donc en utilisant avec du silicone, ça passe mieux quand même.
Tout à fait. Évitez effectivement les choses aussi à base de pétrole raffiné, en fait, des éléments vraiment minéraux. Donc pétrole à tout, ou la paraffine aussi. Hein,
ouais.
Genre vaseline par exemple.
Ah oui, la vaseline, non, bah de toute façon, c'est pas c'est pas bon.
Ouais, mais c'est assez connu dans la sexualité hétéro, tout ça. Moi, j'entends beaucoup vaseline et tout.
Ouais.
Bah non, la vaseline, c'est pas un lubrifiant. Hein. Enfin, ouais. Faut pas utiliser ça sur les.
C'est lubrifiant, mais quand on va un peu plus loin que le sexe, quoi. Enfin, genre.
Pour les grandes dilatations, le point, tu veux
quoi.
Dire, ouais.
C'est quoi? C'est de la vaseline qu'on met?
Alors.
C'est encore plus dangereux, ça.
Pour le fist, par exemple,
oui,
en général, c'est des lubrifiants un peu hybrides. Alors, entre. Il y a un peu d'eau, il y a un peu de silicone, il y a un peu de composants minéraux, donc issus du raffinage du pétrole.
Ah, donc c'est pas
forcément très bon, effectivement, pour les muqueuses. Après, il n'y a que ça qui existe, voilà, ouais. À part les choses Crisco, par exemple, la margarine.
C'est ça, la
graisse. C'est de la graisse végétale.
Oui, mais ça, sans préservatif, donc, du coup.
De toute façon, le fist.
Bah, je sais pas, ou les gants, il y en a qui prennent des gants latex.
Oui, les gants latex, il faut éviter les gants latex avec la graisse. Oui.
Ouais,
il faut éviter le latex avec de toute façon l'huile et de la graisse.
Ok.
Alors, les lubrifiants bio, effectivement, maintenant c'est un peu à la mode là en ce moment, ça fait quelques années maintenant. Donc, il y a il y a un composant principal, donc en général, il y a de l'eau, toujours.
Ouais.
Les lubrifiants bio, c'est à base d'eau, forcément. Et le reste, c'est à base de Chondrus crispus.
C'est quoi ça?
c'est une algue rouge, en fait. L'autre nom, c'est donc algue rouge, goémon ou caragéane. Voilà. Mm-hmm. Tout ça, c'est des trucs marins, c'est des algues.
D'accord.
Des algues séchées et puis concassées, ça fait de la poudre en fait, et c'est remélangé à l'eau et ça fait du lubrifiant.
Ça se croirait Harry Potter.
Et puis, voilà.
Faut se préparer, dis donc, avant. Ouais.
Et puis, xanthan gum aussi. Donc, c'est un épaississant, donc ça épaissit effectivement le lubrifiant.
D'accord.
Voilà. Donc, à choisir, ouais, quand même, prenez le bio. Comme ça, vous évitez. Bon. Il se peut qu'il y ait d'autres choses. Hein. Il y a aussi tous les parfums, tout ça qui rajoutent au truc
bio.
Dans
le bio aussi, il faut faire attention aux allergies aussi.
Mais en tout cas, la base est comme ça. Voilà un petit peu pour les lubrifiants, les étiquettes des lubrifiants, regardez les composants.
D'accord.
Je ne sais pas si j'ai le temps de faire les préservatifs. Mais...
Bon, vite fait alors, rapide.
Vite fait, bon, sur les boîtes de préservatifs, vous avez des obligations en fait, à mettre. Il faut toujours mettre que c'est testé dermatologiquement et électroniquement, individuellement. Mm-hmm. Il faut toujours mettre que c'est aucune méthode... aucune méthode de contraception ne peut garantir la protection efficace à 100% contre...
J'avais une question par rapport à ça. Tu dis que c'est testé, ils sont tous testés un par un, c'est-à-dire que...
Il me semble que
on prend des échantillons...
Il me semble que oui, en fait, quand ils disent ça, en fait, je crois que ça tombe dans des bacs,
ouais.
Il me semble, avec de l'eau ou je sais pas quoi, enfin, je sais pas comment ça marche, mais
ils les testent un par un.
Mais il y a un test qui est fait... Ouais.
D'accord.
Oui, parce que c'est vraiment indiqué... Individuellement.
À
100% individuellement. Okay. Voilà. Donc en général, les capotes, c'est fait en latex de caoutchouc. Donc c'est végétal, le caoutchouc. Enfin, il y aura peut-être de moins en moins de caoutchouc puisque la forêt amazonienne brûle. Donc peut-être qu'on aura moins de latex.
Oui.
Bon, il y a des capotes qui sont faites sans latex hein, pour les personnes qui sont allergiques. Après, sur toutes les boîtes de capotes, il y a toujours marqué la largeur nominale.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
La largeur.
Ce n'est pas la largeur de votre sexe, ou en tout cas, c'est pas la largeur qui va aller.
C'est pas le rond, voilà. C'est pas le diamètre.
C'est pas rond. Ouais. La largeur nominale, c'est la largeur qui est à plat, en fait. Ouais. C'est quand la capote, elle est déroulée et mise à plat.
Ouais.
Et donc la largeur standard, c'est 56 mm, donc 5,6 cm.
Donc normalement, c'est un peu plus petit que la verge, si on veut que ça baille pas.
Oui, non, mais ça fait tant.
5,6, c'est plus grand.
C'est plus grand, bah alors ça va bailler. Ah non, quand on se met en rond, ça va.
Mais après, non, mais voilà, effectivement, en rond, après, les formes de pénis sont quand même tous un peu différents et c'est pas forcément rond.
D'accord, donc c'est pour ça que ça reste accroché.
Okay. Voilà, mais en tout cas, c'est la largeur nominale qui est indiquée et la longueur est rarement indiquée sur les boîtes de préservatifs. Mm-hmm. Et même quand on dit normal, XXL, il n'y a pas souvent les tailles. Donc la longueur standard, je vous le dis, c'est en général 18 cm.
Voilà. D'accord, donc c'est assez large vu que la moyenne nationale c'est 16. Donc on a. Bon,
en général, la capote taille standard, elle passe quand même pour une majorité des.
D'accord, il n'y a que Taran qui ne peut pas, quoi, c'est ça. S'il est encore là.
Eh oui.
Ok, eh ben, écoute, merci Florian. T'as appris des choses, Taran? Est-ce que tu regardes sur les notices, est-ce que tu regardes ce genre de choses où tu prends juste la couleur de la boîte?
Honnêtement, non, je ne regarde pas vraiment. C'est surtout la couleur de la boîte ou de ceux que j'ai déjà vus chez d'autres gens.
Ouais, ou si c'est marqué Dolce & Gabbana dessus.
Bien sûr.
Faut qu'il y ait de la marque.
C'est ça, moi je prends du lubrifiant avec Saint-Laurent, c'est le meilleur.
C'est bien. Après, il y a un gros jeu marketing aussi sur les emballages de capote.
Ah bah oui, forcément, ouais.
Les bouteilles de gel.
Il y en a. Forcément. Des trucs originaux, c'est marrant.
Hum. Ah bah quand ils feront les bouteilles de gel comme les bouteilles de parfum, on va s'amuser, hein, c'est sûr. Allez, merci Florian. Allez, on va parler. Bah tiens, bande dessinée maintenant, on change d'étiquette. Hein. Voici maintenant la chronique dessinée d'Olivier.
Allez, je vais vous parler d'une BD moi, que j'ai adorée et qui va justement à l'encontre de toutes les étiquettes. Ça s'appelle Peau d'homme. Alors Peau d'homme, c'est un roman graphique, donc une BD scénarisée par Hubert et dessinée par Zanzim. Alors Hubert, c'est un coloriste et scénariste qui notamment a été diplômé de l'école des Beaux-Arts d'Angers. Wow. Mmh. C'est lui qui avait fait en 2013, il avait dirigé un ouvrage qui s'appelait Les gens normaux, paroles lesbiennes, gays, bi, trans. Et puis il avait aussi scénarisé la BD La nuit mange le jour. J'en avais parlé de cette BD, c'était une BD sur une relation un peu sadomasochiste entre un daddy et puis un petit jeune, un petit twink. Mm-hmm. C'est une très très bonne BD. Et puis Zanzim, lui, donc c'est un Lavallois qui a notamment dessiné L'île aux femmes, qui était sur l'histoire d'un séducteur qui s'échouait sur un îlot perdu peuplé d'Amazones, donc un homme face à plusieurs femmes. Et ça se finit pas comme on pense. Bon, bref.
On ne spoil pas.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire peau d'homme? Bien sûr, ça fait un peu référence à peau d'âne, faut dire ce qui est. Et en fait, bah, c'est un peu ça. C'est un peu un conte, en fait. Donc, concrètement, on est en Italie pendant la Renaissance, donc près 15e, 16e siècle. Et on suit Bianca, donc, qui est issue d'une famille quand même assez aristocratique. Et Bianca, à l'époque, donc, elle doit se marier. Et puis ses parents donc, vont la faire marier à Giovanni. Giovanni qui est un noble. Donc ils ne se connaissent pas du tout, ils ne se sont jamais vus. Et donc Bianca n'a pas trop envie de se marier. Et donc elle va passer quelques jours chez sa marraine. Et sa marraine lui dit, mais voilà, dans la famille, on a un secret. On a une peau d'homme. En fait, c'est une peau d'homme. En fait, tu passes ta peau d'homme et tu deviens un homme avec tout ce qu'il y a, quoi.
D'accord.
Donc elle devient un homme appelé Lorenzo. Donc voilà, elle change de corps, elle change de tout, quoi. Elle découvre son sexe, elle découvre tout, voilà. Et donc elle va décider d'espionner son futur mari Giovanni. Ah. Et bien sûr, elle va découvrir que Giovanni est homosexuel. et bien ils vont devenir amants.
D'accord, bah dis pas trop de choses, voilà. Hein, quand même.
Alors le film, c'est le premier tiers de la BD.
La BD, hein. Ouais.
Donc c'est une bande dessinée féministe qui interroge sur la question du genre, sur la question de la sexualité des hommes, la sexualité des femmes, voilà. Enfin, c'est un film vraiment d'émancipation de la femme, d'émancipation de la sexualité de la femme, qui à l'époque était promise à un seul homme qui pouvait avoir quasiment aucune sexualité en dehors du mariage. Voilà. Alors, on va suivre l'évolution même de la sexualité de cette femme qui est en avance sur son temps. Alors, il faut dire qu'en arrière-plan, la ville où ça se passe, c'est une ville italienne, elle est soumise à une véritable inquisition. Inquisition, en fait, dirigée par le propre frère de Bianca, qui est en fait un fanatique religieux. Et en fait, cet arrière-plan réac, fanatique religieux, c'est un peu la réponse des scénaristes de la BD aux réactions conservatrices qui ont eu lieu contre le mariage gay. En fait, c'est pour réagir contre, ces réactions conservatrices que la BD a été écrite. Et en fait, voilà, c'est très d'actualité, en fait, cette BD. Ça reprend un peu les mêmes arguments qu'avaient les mariages pour tous, quoi.
Et elle est belle? C'est une BD, il y a beaucoup
très,
de dessins.
Elle est très bien dessinée, il y a des très belles esquisses et tout. En fait, c'est un manifeste anti-homophobie. Voilà, moi, je peux que le conseiller. Bon, ça se lit assez vite, hein, ça se lit en une heure et demie. Voilà, c'est une BD. Je ne voyais que ça actuellement dans les librairies. Si vous, voilà,
c'est un grand format,
allez-y,
en plus.
C'est un grand format, vous demandez Podium. Moi, je suis allé à Rennes récemment. C'était couvert de ça partout dans les librairies de Rennes.
D'accord.
C'est vraiment une BD à lire. Voilà, et à faire passer à ses amis. Ça s'appelle Peau d'homme.
Très bien. Eh bien, merci Olivier. Vous pouvez donc réagir à l'émission, hein, si vous voulez, sur la page Facebook Astozonix et Tonix Live. Allez, on parle d'étiquette ce soir. Les noms qu'on y appose pour définir les orientations et désirs sexuels sont pour le moins nouveaux. Et il est temps de se familiariser avec ce qui sera peut-être la sexualité du 21e siècle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme nom? On y va, on commence par Florian.
Alors, qu'est-ce qu'un androsexuel?
Androsexuel. Alors, on va demander déjà à Taran.
C'est pas quelqu'un qui aime la compote.
Il a fait le... Oui, c'est vrai. Il nous a fait un test là, on va faire pareil. Hein. Taran, androsexuel, est-ce que tu sais ce que c'est?
Je sais pas du tout ce que c'est.
Andro.
Alors, un androsexuel est sexuellement et émotionnellement attiré par la masculinité, donc attiré par toute personne qui a des caractéristiques dites masculines, une femme masculine, un homme masculin, indépendamment du fait qu'il soit ou elle soit lesbienne, hétéro, gay, etc.
Ah d'accord, voilà, c'est juste le côté masculin.
Par un aspect masculin.
Donc même une femme masculine l'attire, d'accord. Ok, bon bah voilà, andro, tout va bien. Olivier.
Un gynésexuel.
C'est comme un gynécole.
Donc à l'inverse d'un androsexuel, un gynésexuel est une personne attirée sexuellement et émotionnellement par la féminité. Mais pas forcément par le sexe féminin.
D'accord.
Donc une personne gynésexuelle pourrait donc sortir aussi bien avec une femme cisgenre féminine, ou une femme trans féminine, ou un garçon efféminé.
D'accord. Ouais, donc c'est l'inverse d'andro. Un autre mot.
Alors qu'est-ce qu'un aromantique?
Un aromantique. Alors Taran, un aromantique?
Alors là, depuis le début, je connais pas.
Mais t'auras plein de choses à dire à tes copines demain, hein, ça c'est sûr.
Ouais.
Hey, je sais ce que c'est qu'un aromantique. Alors un aromantique.
Alors une personne aromantique ne ressent pas le besoin de vivre une relation amoureuse, c'est-à-dire basée sur les sentiments. L'aromantique a une vie sexuelle, mais ne respecte pas le principe de l'exclusivité monogame.
D'accord, il fait que niquer quoi.
Oh.
Ok.
C'est des lapins.
Oui, c'est ça, les aromantiques.
Donc le polyamoureux. Bah, le polyamoureux est capable d'entretenir deux ou plus relations amoureuses ou sexuelles suivies d'intensité quasi similaire. Donc
il a
vraiment des histoires d'amour parallèles. Donc si vous êtes polyamoureux, bah, vous pouvez donc très bien vivre en couple et aimer autant l'un que l'autre.
Ok. Bon, autre chose.
Un autosexuel.
J'ai l'impression que c'est... Alors, on va chercher. Alors, Taran, autosexuel, ça te branche, ça te parle, d'après toi?
Pourquoi j'ai un truc en tête, mais...
Vas-y, je pense que ça doit être ça. Vas-y, c'est quoi un autosexuel?
J'ai peur.
C'est pas, quelqu'un, genre, il couche avec lui-même, chef.
Ouais,
c'est
ça. Ben, est-ce que c'est ça?
Je croyais qu'il baisait les voitures. Non.
Ah oui, le pot d'échappement.
Le pot d'échappement, c'est
alors,
ça.
Alors, il fait l'amour avec lui-même, c'est ça?
Le levier de vitesse. Alors, un autosexuel est attiré sexuellement et émotionnellement par lui-même. Voilà, il expérimente son attirance avec lui-même. Comme s'il alimentait des sentiments d'amour propre, cette personne préfère se donner du plaisir à elle-même plutôt qu'à autrui.
Ouais, bon, on n'a jamais mieux servi. Lui, ouais, c'est ça. On n'a jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Olivier.
Alors ça je connaissais pas, un lithromantique, L-I-T-H, romantique. Donc une personne lithromantique cherche un amour romantique mais ne souhaite pas que ses sentiments soient réciproques. Un peu bête.
Ah oui.
Donc c'est un désir de romance à sens unique qui se complaît dans l'absence de retour.
Bon, c'est un peu maso, hein.
Ah oui, c'est un peu maso.
Il est un petit peu maso. Oui, encore une petite.
Ça et puis après je réagirai vite fait. Le demi-sexuel.
Oui. Alors, c'est quoi un demi-sexuel?
Alors, le demi-sexuel n'a d'attirance sexuelle que pour un partenaire de longue date, une forme de fidélité sincère et absolue teintée de timidité saupoudrée d'une quête d'exclusivité. Qu'est-ce que c'est beau.
Ouais.
En clair, pas envie de coucher tant qu'on n'est pas déjà un peu amoureux de la personne. Voilà.
D'accord. Allez, on va s'arrêter pour là.
Oui, vas-y, une suite. Et je voulais juste dire, enfin, je reviens un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'augmentation du vocabulaire en fait là-dessus. Je pense que certaines personnes peuvent s'identifier justement pour expliquer aussi des comportements, par exemple des échecs amoureux ou plusieurs échecs amoureux ou des échecs sentimentaux, sexuels en fait. Et parfois, en fait, c'est pas forcément la faute de la personne en elle-même, c'est juste que elle peut à un moment donné, elle peut en fait être polyamoureux sans le savoir. Et le fait que le terme existe et soit documenté et des personnes se reconnaissent dans le fait d'être polyamoureux peut expliquer en fait des échecs ou le fait de d'aimer une personne et puis une deuxième personne et pas forcément se sentir coupable en fait d'aimer deux personnes ou trois personnes en même
temps. Si t'as un copain que tu le trompes et tu te dis non, mon excuse c'est parce que je suis polyamoureux, c'est
pas une excuse, ça peut être si.
D'accord, donc voilà, vous avez de toute façon vous pouvez le faire puisqu'il y a un mot qui existe, donc tout est possible. Non mais d'accord, ok, je note, il y a pas de souci. Soyons polyamoureux. Alors bon, allez, c'est déjà la fin de l'émission. Mais on va pas se quitter sans vous parler de la nouvelle pièce de théâtre de Tonix, Happy Horror. Elle sera présentée, si tout va bien, les jeudis 22 et vendredi 23 octobre 2020 au théâtre de la Comédie Un Rue Cordel à Angers.
Ah bon, faut qu'on connaisse notre texte d'abord.
C'est ça. Oui, c'est vrai, parce que ce sera l'occasion pour vous de voir deux chroniqueurs de Tonix Live sur scène, puisque Florian et Olivier, ici présents ce soir, jouent dans cette pièce. Donc j'espère que vous êtes prêts.
Oui.
Bah, toujours.
D'accord. En tout cas, vous pouvez réserver vos places en ligne sur le site tonix.so.fr. Donc notez bien jeudi 22 et vendredi 23 octobre de cette année, si tout va bien. Alors sinon, n'oubliez pas que le Club Tonix est ouvert le vendredi de 19h à 23h au 25 rue Lyonnaise à Angers, et que le bar L'Entre-deux et le Club L'Insolite sont bien sûr ouverts. Donc voilà, tant qu'on n'a pas d'interdiction, allez-y, parce qu'ils ont vraiment besoin de vous pour pouvoir vivre cette période un petit peu difficile. On embrasse fort Alexandre, un de nos chroniqueurs de Tonix Live, hein, qui est à l'hôpital.
Bah oui, gros bisous.
Donc on te fait plein de bisous.
Et bon rétablissement.
Voilà, on te souhaite un bon rétablissement, puis on espère te revoir très très vite dans l'émission. Merci aux chroniqueurs du soir, merci Olivier.
Ben merci, gros bisous à tous.
Merci Florian.
Merci.
Merci Taran.
Ben merci aussi à vous.
Il s'endort, Tara, tranquillement. Allez,
non,
là. Allez, la semaine prochaine, c'est l'excellente émission LGBT Quasar on the Air sur Radio G à Angers, version nouvelle formule avec Stéphane. On lui souhaite une très belle saison. Et nous, on se retrouve dans 15 jours, même heure, même endroit, pour papoter sur le monde LGBT, car il y en a toujours un peu plus. Et on vous le met quand même. Bonne soirée. C'était Onyx Live.
Libéré. Le vent que prend dans ta tombe, la langue que prend dans ta tombe,
Radio G 101.5 FM. Yes.